L'Express du Grand Paris, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Une émission présentée par Christophe Bordet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Express du Grand Paris sur Radio Territoria. On est ravis de vous accueillir avec Bérénice Deville qui est à mes côtés. Comment ça va Bérénice ?
Eh bien très bien et vous Christophe ?
Bah, je suis ravi que vous soyez là.
Eh bien moi aussi
évidemment,
je suis ravi d'être là.
Vous rayonnez, c'est absolument magnifique.
Vous savez parler aux femmes.
Oui, c'est ce qu'on dit. L'Express du Grand Paris, c'est la seule émission qui met en lumière les travaux gigantesques qui doivent donner naissance à un réseau de transport absolument hors norme. 68 nouvelles gares reliées entre elles par 200 km de voies ferrées, le prolongement de la ligne 14, 4 nouvelles lignes, la 15, la 16, la 17, la 18, on pourrait presque faire un quartet ou un quintet plus, pourquoi pas. C'est le chantier du siècle, en tout cas ça c'est sûr, mise en service complète en 2030.
Salut mec, ça va, tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne.
Bon, alors évidemment, vous avez reconnu Les Inconnus avec Rap Tou, qui est une chanson phare des Inconnus. Et justement, le problème, c'est que la plupart des 1200 communes d'Île-de-France, dont 800 qui comptent moins de 2000 habitants, on ne le dit jamais assez, eh bien, n'accueillent absolument pas les nouvelles gares en question, ne sont pas concernées par les travaux, mais qu'importe, elles passent quand même à la caisse. Et c'est le cas de Montreux-Fault-Yonne. C'est en Seine-et-Marne et le maire de Montreux est avec nous. James Chéron, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour Bérénice.
Merci beaucoup d'être venu nous voir sur Radio Territoria. On est ravis de vous accueillir évidemment. Et puis également avec nous en visio, à distance, Dominique Bruno qui est président des commerçants de Montreux. Bonjour.
Bonjour à vous tous.
Comment ça va Dominique ?
Écoutez, très bien.
Bon, avant de parler de Montreux aujourd'hui, Montreux, hier, c'est en quelques mots, ma chère Bérénice.
Tout à fait. 10 septembre 1419. C'était il y a un moment.
Ça ne nous rajeunit pas. Oui.
Voilà. Jean sans peur, duc de Bourgogne, est tué sur le pont de Montereau par Duchâtel au cours de l'entrevue qu'il a avec le dauphin, futur roi Charles VII. Alors cet acte a pour but d'empêcher un rapprochement du dauphin avec le parti bourguignon et de venger l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407. Exactement. C'est bien. Le 23 juin 1420, Philippe le Bon, fils et successeur du duc assassiné, reprend la ville avec l'aide du roi d'Angleterre pour récupérer la dépouille de son père, puisqu'il était enterré 8 mois dans la bière commune de l'église Notre-Dame de Montereau.
Ah oui, magnifique église d'ailleurs.
Oui, très très belle église. Et Montereau, c'est aussi la faïence, avec évidemment le musée de la faïence aujourd'hui.
Mais quelle histoire, mais quelle belle histoire, monsieur le maire, James, est-ce que vous êtes fier de cette histoire ? Alors là, on n'a pris que vraiment 2-3 petites choses, mais énorme quand même.
Oui, je suis évidemment fier de Montreux pour l'histoire que cette ville a apportée. Et effectivement, vous avez cité l'assassinat de Jean sans peur, c'est l'un des moments clés dans la guerre de Cent Ans. Vous auriez pu aussi parler de la bataille de Napoléon, qui fut l'un de ses derniers beaux souvenirs de soldat, puisque c'est l'une de ses dernières victoires. Mais je dois aussi vous dire que je suis très fier de Montreux aujourd'hui, parce que c'est une ville extraordinaire, qui bouge beaucoup, qui a un potentiel de fou. Et avec toute la municipalité, avec les partenaires, notamment l'Association des commerçants, dont je salue le président qui est avec nous aujourd'hui. Notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que Montreux s'inscrive aussi dans l'histoire de demain, l'histoire de la France peut-être, mais en tout cas l'histoire de chacun des habitants qui aujourd'hui habitent dans notre belle commune de Seine-et-Marne.
Absolument. Et écoutez, on va parler justement de cette histoire actuelle, celle qui se déroule sous nos yeux, si je puis dire. Tout d'abord, avant d'évoquer les travaux du Grand Paris, j'ai envie de vous dire, ça y est, vous avez gagné, c'est l'actualité. Les écoles sont fermées depuis quelques jours maintenant et je crois que vous le demandiez, vous, à corps et à cri pendant des semaines. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision qui a été prise par le président de la République ?
Écoutez, je crois que c'est une décision que beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnel des collectivités, les communes, les départements et les régions, pour les écoles, les collèges et les lycées, et bien sûr les élus attendaient et pour beaucoup demandaient. Effectivement, on a vu jour après jour, semaine après semaine, des cas contacts de plus en plus nombreux, des cas positifs de plus en plus nombreux, et les écoles étaient en train de devenir des clusters. À Montereau, il y a une école élémentaire où on avait été obligé de fermer déjà 6 classes. On avait l'un de nos 3 collèges où toutes les classes de niveau 4e et de niveau 3e étaient déjà restées à la maison, et ce n'était plus tenable. Je crois que le président de la République a effectivement bien fait de, pour une fois, suivre l'avis des gens sur le terrain, c'est-à-dire des élus locaux. À Montereau, j'avais un peu sondé les maires des alentours, et nous étions une très grande majorité à avoir signé effectivement un courrier adressé au ministre de la Santé pour aller dans ce sens. Mais je veux noter que la présidente de la région, Valérie Pécresse, avait demandé aussi que les vacances soient avancées, que la maire de Paris avait fait la même demande. On voit que c'était très transpartisan, très trans-territoire, et que c'était simplement une mesure de bon sens.
Vous êtes un maire de centre-droit. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, après 4 ans de pouvoir macroniste, Macron compatible?
Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être Macron compatible.
Être capable de dire oui, la politique qui a été menée, par exemple sur cette crise, bon, malgré toutes les difficultés qu'on a connues, manque de masques, manque de vaccins, etc., je pourrais quand même y adhérer.
Premièrement, Emmanuel Macron, c'est le président de la République française. C'est donc le président de tous les Français. C'est mon président. Et ce que je souhaite, c'est qu'il réussisse et que son gouvernement réussisse. Parce que quand on a un gouvernement qui réussit, on a un pays qui va de l'avant. Donc déjà, je suis Macron positif. Ça ne veut pas dire que je partage évidemment tout ce que le président et son gouvernement font sur la crise sanitaire. Je ne veux pas du tout joindre ma voix à toutes celles et ceux qui donnent des conseils, qui disent ce qu'ils auraient fait, alors qu'au fond, personne n'a envie d'être à sa place, personne n'a envie d'être à la place du gouvernement, parce que toutes les décisions sont difficiles à prendre. Donc, je crois simplement qu'on peut aider le gouvernement à prendre les décisions qui sont, à l'instant T, celles qu'il faut prendre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut regretter, notamment quand on ait des effets d'annonce et puis des fois pas beaucoup d'effets sur le territoire. Je pense notamment aux vaccins. Ça a été difficile pour les masques, ça a été difficile pour les tests, c'est aujourd'hui difficile pour les vaccins. Mais ce n'est pas des leçons qu'il faut donner. Je crois que c'est conjuguer nos forces. Et en l'occurrence, les élus locaux, me semble-t-il, font le maximum pour être aux côtés de leur population. C'est nous qui sommes, on le dit souvent, à portée de baffe. Les décisions sont prises à l'échelon national. Et puis c'est nous, sur le terrain, qui nous prenons les récriminations lorsqu'on ne peut pas se faire vacciner alors qu'on le souhaiterait. Voilà, moi, je veux surtout saluer les 35 000 maires, les centaines de milliers de conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux.
Les élus de proximité qui restent les élus préférés des Français, malgré tout. Donc ça, c'est plutôt rassurant, quand même.
Parce qu'ils sont à l'image des Français, parce qu'ils sont aux côtés des Français sur le terrain. Moi, je reçois dans mes permanences des dizaines d'habitants de Montereau chaque semaine. Je suis chaque jour à leur côté. Je pense que cela crée un lien de confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais cela crée un lien de confiance. Quand on veut s'adresser au maire, on peut le faire. Évidemment, c'est plus compliqué pour un ministre ou pour le président de la République, ce qui n'est pas un reproche. C'est normal que le président ou qu'un ministre soit dans une vision macro. Mais on a vraiment besoin d'avoir des élus locaux qui sont très impliqués, ce qui est le cas.
Et justement, bon, on parlait de Macron compatible, ça vous parle pas trop, mais vous êtes centriste. Vous soutenez Valérie Pécresse. D'ailleurs, vous reprenez beaucoup ses tweets, vous partagez beaucoup sur les réseaux sociaux sur elle. Donc vous la soutenez pour les régionales. Est-ce qu'elle doit y aller, selon vous, pour la présidentielle, faire comme Xavier Bertrand pour 2022?
Je ne suis pas centriste, je ne fais pas de la géométrie, je fais de la politique. Moi, je suis un libéral, je suis un humaniste, je suis un écologiste sensé et raisonné, je suis un Européen. Voilà, ça met certainement dans une famille politique. Et évidemment, à l'échelle de la région Île-de-France, je suis aujourd'hui dans la majorité de Valérie Pécresse. Je préside la commission des affaires européennes. Je pense qu'elle a fait le travail depuis les élections de 2015, que ça se voit, ça se sent sur le terrain. On n'a jamais mis autant d'argent et de moyens et de volonté dans la rénovation des transports. J'imagine qu'on va en parler tout à l'heure en parlant du Grand Paris. On n'a jamais mis autant de moyens dans les territoires. On a révolutionné la politique régionale pour les territoires les plus éloignés de Paris. La Seine-et-Marne, c'est 50% du territoire de l'Île-de-France. Il n'y avait aucun moyen, aucune vision, aucun regard de la majorité précédente. Voilà ce qu'on a transformé. Donc moi, je pense que Valérie Pécresse, aujourd'hui, est une bonne présidente de région et qu'elle sera encore une bonne présidente de région. Pour le reste, pour les échéances futures, c'est à elle qu'il faut en parler. Je ne crois pas que ce soit son actualité.
Le train électrique, le train à musique, viens me chanter sa chanson et dis donc mon cœur sera prêt.
Le petit train de Rick Cazaray, figurez-vous que c'était mon premier disque vinyle. Vous rendez compte ? Je ne sais pas si j'avais très bon goût, mais j'avais que 5 ans en même temps.
Avec Bernice, nous n'étions pas nés, pas pour être désagréable.
C'est ça, mais c'est vrai. Vous avez raison, c'est en 1975. Donc, vous voyez,
voilà. Ça date les inconnus, un peu. Ça nous parlait plus, je crois.
C'est ça.
Bon, James Chéron, notre sujet phare dans cette émission, ce sont donc les travaux du Grand Paris et donc ces nouvelles gares du Grand Paris. Alors, chez vous, à Montereau, en Seine-et-Marne, vous avez déjà le Transilien. Bon, c'est déjà pas mal.
Ben, nous avons le Transilien, nous sommes tout au bout de la ligne R, c'est pas mal. Et puis j'aimerais qu'on remette l'église au milieu du village, c'est une ligne qui a été abandonnée depuis des décennies.
Ouais.
Et puis vous l'évoquiez à l'instant, vous parliez de la présidente de la région. Bon, on a pris cette décision extrêmement courageuse de réorienter les affectations d'investissement de la région et de l'Île-de-France Mobilité. Et puis dans le courant de ce mandat, on a changé tous les trains de la ligne R, les deux branches, les trois branches, celle qui va à Montargis et les deux branches qui viennent à Montereau. C'est plus d'un demi-milliard d'euros qui ont été fléchés par l'actuelle majorité régionale pour changer toutes les rames de train sur la ligne R. C'était évidemment indispensable. Et puis ça n'est pas suffisant parce qu'il y a aujourd'hui des infrastructures à rénover. Et ces travaux, la SNCF n'a pas forcément les moyens. Voilà un sujet qui devrait être
tous les trains
du Grand Paris qui en est exclu.
Voilà. Alors, une question par rapport à ce travail qui a été fait sur la rénovation, ou le changement en tout cas de machines, parce que c'est vrai que les trains étaient très âgés, franchement.
Mais nous avions des petits griffes, c'est
très désagréable
quand même de la France et de l'Île-de-France d'avoir des trains qui étaient des trains qui avaient 50-60 ans et qui n'avaient eu aucune rénovation, ce qu'on appelait les petits gris, les trains en zinc, là, que personne
mais sur
ne
la ligne
plus
N, par exemple, qui est la ligne qui va vers Versailles, etc., il y a encore beaucoup de ces anciens trains. Quand aurons-nous des trains nouveaux partout ?
Il y a un schéma de remplacement de l'ensemble des lignes, de modernisation qui existe. Et la ligne N, comme toutes les lignes, est dans ce schéma. Les trains les plus anciens seront remplacés, les trains les moins anciens seront rénovés pour que tous les voyageurs du quotidien de notre région Île-de-France puissent voyager dans des conditions dignes et salubres. On a commencé par les lignes les plus éloignées, par ceux qui passaient le plus de temps dans les transports. C'était par exemple le cas, évidemment, des habitants de Seine-et-Marne, et notamment du sud de la Seine-et-Marne. Pour aller de Montereau, pour aller de Nemours jusqu'à la gare de Lyon, il y a déjà une heure de transport. Et puis ensuite, vous rajoutez votre bus, votre métro, votre RER. Ouais. Voilà. Donc on a commencé par ceux qui passaient le plus de temps dans les transports. Je n'oublie pas la ligne P. On pourra aussi en parler dans le cadre du Grand Paris. La ligne P, elle n'est toujours pas électrifiée. Et il faut
absolument... Elle va de où à où déjà ?
La ligne P, c'est celle qui va à Provins.
Oui.
Donc là aussi, on passe beaucoup de temps dans les transports. Elle relie Provins à la gare de l'Est. Et aujourd'hui, vous êtes sur des trains qui roulent encore
avec
une énergie carbonée. C'est juste inimaginable dans la première région d'Europe, la région la plus moderne, la région où il y a le plus de recherches, la région où il y a le plus d'argent, où l'économie est la première d'Europe, et puis on a encore des trains qui fonctionnent au fioul, c'est pas possible.
Bon, en tout cas, à Montereau, donc pas de nouvelle gare du Grand Paris. En revanche, et c'est ça qui est assez stupéfiant quand on le découvre, c'est que vous n'y êtes pas, mais vous payez. Vous payez pour les autres.
Ben c'est exactement cela. Le Grand Paris, c'est quoi ? C'est d'abord une grande ambition qui avait été porté par le président Nicolas Sarkozy, de se dire on va faire de la métropole de Paris, la région parisienne, une métropole mondiale. Donc c'était une vision. De cette grande vision, aujourd'hui, il ne reste plus qu'un schéma de transport. Il est évidemment extrêmement intéressant, mais c'est déjà une forme de réduction. Et puis on se rend compte, au fond, qu'on a démarré par faire de l'institutionnel. On a inventé la métropole du Grand Paris. Est-ce qu'un habitant de l'Île-de-France sait ce qu'est la métropole du Grand Paris
personne.
Et à quoi ça lui sert ?
Sondage personne. Dans la rue, personne.
Non mais voilà, donc aujourd'hui, vous habitez dans une commune. Votre commune, elle fait partie d'un établissement public territorial qui a un numéro. Et puis cet établissement public territorial qui a un numéro, il est membre de la métropole du Grand Paris. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est en gros pour Paris et la petite couronne. Puis quand vous êtes plus loin, c'est-à-dire quand même une grande partie de la population, et puis surtout une très grande partie du territoire, vous n'avez le droit à rien de tout ça. Ça tombe bien parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Et puis, comme ça ne suffit pas, on a inventé la Société du Grand Paris.
Oui.
La Société du Grand Paris, c'est elle qui doit porter concrètement la réalisation de cette ambition en termes de transport. Bah, la Société du Grand Paris, elle s'occupe effectivement du chantier du siècle que vous évoquiez tout à l'heure, 68 gares, 200 km de nouvelles lignes, 4 nouvelles lignes d'ailleurs. Elle fait payer tout le monde et elle ne travaille pas pour tout le monde.
Alors vous, par exemple, tiens, vous êtes venu avec votre...
Je suis né avec mes feuilles d'impôt.
Votre feuille d'impôt, oui.
Pour vous montrer, quand on est à Montereau, sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière, on a... une petite ligne, c'est pas écrit très gros, c'est marqué la taxe spéciale d'équipement comprend la TSE Grand Paris. Eh bien, moi, j'ai fait le calcul que moi, je paye 20 euros de TSE. Il y a
par an, il y a
en Seine-et-Marne 615 000 logements. Mmh. Voilà. 615 000 logements à 20 euros de logement, ça veut dire que les Seine-et-Marnais, chaque année, ils payent plus de 12 millions d'euros.
Dont ils ne voient pas la couleur à la fin.
Ça fait 10 ans que la Société du Grand Paris a été créée. Ça fait 120 millions d'euros. 120 millions d'euros payés par les Seine-et-Marnais pour avoir strictement rien. Dans ce schéma de transport du Grand Paris, il y a vaguement deux gares qui tangentent à peine. Achel, et puis la deuxième, fallait quand même qu'elle soit pas trop en Seine-et-Marne. Donc c'est Noisy-Champs, vous voyez, on a rajouté Champs-sur-Marne, mais c'est d'abord Noisy qui est en Seine-Saint-Denis. On a déjà payé 120 millions d'euros, plus de 120 millions d'euros de fiscalité quand on est en Seine-et-Marne. On représente la moitié du territoire de l'Île-de-France et on a le droit strictement à rien. C'est un sujet qui a déjà été porté, y compris devant le Conseil constitutionnel et auprès de tous les législateurs, qui nous ont simplement répondu. Que voulez-vous, monsieur le maire ? Dans la loi, il est écrit que tous les contribuables franciliens doivent payer, donc vous devez payer,
voilà.
Et puis vous n'avez rien à dire. Et puis quand on est allé devant la Société du Grand Paris en disant, mais au moins, essayez d'aider nos territoires. Si on n'a pas une gare dans ce nouveau schéma de transport, essayez d'aider la SNCF pour moderniser nos lignes. C'est ce dont nous avons besoin. Je le disais tout à l'heure avec Île-de-France Mobilité et la région, nous avons changé les matériels roulants. Nous sommes en train de changer les matériels roulants. On a besoin que la SNCF puisse moderniser les infrastructures. Et la Société du Grand Paris nous a dit c'est pas dans nos statuts, c'est pas dans nos missions. Donc on encaisse vos cotisations fiscales, mais on ne renvoie pas la SNCF pour moderniser vos lignes. Et puis, permettez-moi d'aller encore plus loin. J'évoquais la ligne P. La ligne P, aujourd'hui, n'est pas encore électrifiée. Il y a un contrat qui a été signé entre l'État, la région et le département pour financer l'électrification de cette ligne. C'est extrêmement important pour notre territoire. Eh bien, figurez-vous qu'entre le moment où ça a été signé et l'heure où je vous parle, en ce 12 avril 2021, l'État s'est à moitié retiré de tout cela. Et c'est le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France qui doivent mettre encore un peu plus la main à la poche pour compenser le désengagement financier de l'État. La Seine-et-Marne est
donc
un
vous êtes le
territoire
dindon de la farce.
Oublié. Nous sommes les Indiens du Grand Paris, ces espèces de petites réserves qui sont très loin, qu'on regarde avec un peu de curiosité, à qui on envoie tous nos déchets, chez qui on vient prélever le sable pour construire, chez qui on vient prélever l'eau pour boire, et à qui on vient prélever aussi l'impôt. On est dans la carte fiscale, mais on n'est pas dans la carte des projets du Grand Paris.
Et James Charron, selon vous, est-ce qu'il aurait fallu que tous les Français payent ces travaux ?
Du Grand Paris, oui.
Du Grand Paris, évidemment.
Il y a deux options, à mon sens. Soit on fait payer ceux qui bénéficient du service, c'est-à-dire ceux qui sont dans le périmètre, Paris, la petite couronne,
bien
parce
sûr.
Que le Grand Paris, c'est cela, la métropole du Grand Paris.
Bien sûr, oui.
On invente une métropole du Grand Paris dont nous sommes exclus. Par contre, la fiscalité pour la Société du Grand Paris, on nous demande d'y participer. Soit c'est à l'échelle du Grand Paris en tant que tel, soit effectivement on considère que c'est un projet d'envergure nationale, et pourquoi pas. Et à ce moment-là, c'est prélevé sur l'impôt général de tous les Français. Mais on ne peut pas demander à une grande partie des contribuables d'Île-de-France de payer un impôt pour le Grand Paris alors qu'ils ne sont pas dedans.
Ouais. Tiens, monsieur le président des commerçants, Dominique Bruneau, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous payez pour les travaux du Grand Paris alors que vous n'êtes pas concerné ?
Alors moi, je suis entièrement d'accord et j'ai découvert avec stupeur que je payais 32 euros.
Ah ben, bah, il paye plus que monsieur le maire, Dominique.
Voilà. Non, j'ai une surface plus grande.
Ah d'accord.
Et du coup... ça dépend à
quel niveau on se place, hein, au niveau de la surface.
Ouais.
On parle de mètres carrés, j'imagine.
Pas de pouvoir.
Ouais.
Voilà.
Non. Et puis, donc je n'étais pas au courant que je payais cette taxe. Ça, c'est le deuxième bas qui blesse.
Mais vous l'avez découvert comment, ça, en fait, en préparant l'émission avec nous, ou vous le saviez avant, quand même ? Ah bon, d'accord.
Ouais.
Voilà une émission d'utilité publique, simplement.
Donc j'ai découvert cette petite taxe bien cachée, le montant, et depuis quand je la paye, et bah, c'est ma stupeur, puisque du coup je participe à quelque chose donc, dont je ne vais pas avoir le bénéfice. Et je suis sur la même ligne, celui qui va en bénéficier doit payer. Si on est exclu, on est exclu, c'est tout, il n'y a pas de discussion. Pourquoi pas ? Mais pourquoi je la paye ?
Ouais, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui, un, ne savent pas qu'ils la payent, déjà, qu'ils le découvrent un peu par hasard comme vous, et qui se posent évidemment la même question que nous tous, mais puisque c'est la loi, alors on n'a plus rien à dire. Non, mais c'est ça qui est dramatique. C'est la loi, donc il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire.
Oui, mais alors on peut retourner comme tout à l'heure, Bérénice l'a dit, on peut retourner en 1400, au Moyen-Âge, on paye la dîme de sel, et puis à ce moment-là, on se tait, et j'ai acheté 4 sacs de sel, et puis... ma taxe sera payée. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est imposé. On est au Moyen-Âge.
Ouais. En tout cas, bon, Ces travaux, ça reste quand même des travaux qui vont permettre à Paris, à la métropole du Grand Paris, de concurrencer, a priori, d'être dans ce club très fermé des capitales mondiales qui comptent et qui compteront à l'horizon 2050, a priori. Tiens, avant d'aller plus loin, Bérénice, racontez-nous ce qui est en train de se passer sous nos pieds pour la construction des nouvelles lignes. Où en est-on dans ces travaux, justement ? C'est l'occasion de faire le point.
Bien, faisons le point. Récemment, on a appris que le tunnelier Armel, car il porte des prénoms, dans les profondeurs de la commune d'Aulnay-sous-Bois, a posé son millième anneau, millième anneau, au niveau de l'ouvrage Neruda. C'est la ligne de la métro 16 hein, qui prend forme.
Ouais.
Alors, ce tunnelier, pour info, ce tunnelier Armel est parti du Puy Brac à Aulnay-sous-Bois en octobre 2019, et il a déjà parcouru près de 2 km et poursuit en ce moment sa course, enfin son creusement, si je puis dire.
À petite vitesse, quand
c'est
même.
C'est ça. Mais, ouais. En direction de l'ouvrage Hugo au Blanc-Ménil, pour atteindre au total 3,3 km de tunnel.
Mais alors Bérénice, racontez-nous, c'est quoi exactement cette machine, ce tunnelier qui transforme Paris en un gigantesque gruyère ?
Alors il y en a 20. Et alors, pour vous donner une image...
Il y a 20 tunneliers en tout.
20 tunneliers, une armée de 20 tunneliers. Pour vous donner une image, en fait, un tunnelier, c'est un énorme monstre d'acier qui est sous terre, qui ressemble à un train. En fait, c'est une véritable usine roulante. Ça fait 100 mètres de long. Ça pèse 1000 tonnes.
Oui.
À l'avant, il y a la roue de coupe qui va rogner la roche en fait, avec des molettes. Et les déblais sont ensuite évacués sur un tapis roulant. Donc c'est très bien fait. Quand le tunnelier a avancé, il s'arrête pour poser en fait, le revêtement du tunnel. En fait, il fait quasiment tout le travail tout seul. Il pose donc ce revêtement composé de voussoirs qui forment en fait, ces fameux anneaux. En moyenne, pour un anneau, il faut compter 7 voussoirs. Ensuite, bah, le revêtement du tunnel est donc posé anneau par anneau. Et il faut savoir que lorsque le tunnelier a posé un anneau, la machine s'appuie sur cet anneau qu'elle vient de poser pour avancer.
D'accord.
Il y a évidemment un poste de pilotage, parce qu'il n'avance pas tout seul, hein, ce tunnelier. Il y a un pilote qui s'oriente avec un laser, puisque vous l'avez compris, sous terre, à moins 20 mètres de profondeur, on n'a pas de GPS.
Bah oui, c'est un peu dur, oui.
Et le laser, eh bien, en fait, définit la cible tout simplement avec une croix. Alors évidemment, il faut que le pilote sache bien viser, qu'il mène bien la croix au bon endroit.
Non, mais c'est assez étonnant hein, comme machine. C'est vrai que
c'est
absolument extraordinaire ce qu'on arrive quand même à faire. Et c'est vrai que c'est une sacrée technologie. James Chéron, ça crée aussi des emplois, parce qu'on nous a dit, en gros, entre 10 000 et 15 000 emplois par an qui sont créés grâce à ces travaux. Il y a peut-être des habitants de chez vous qui travaillent sur ces chantiers, justement. C'est peut-être pas mal à ce niveau-là, non ?
Tout ce qui crée des emplois, de l'activité économique, évidemment, est important. Je voudrais avoir une pensée, pour le coup, pour une entreprise de Montereau qui travaille, qui avait remporté des marchés, notamment sur la ligne 15 et Soletanche-Bachy. Et les machines que vous décrivez, Bérénice, peut-être qu'elles viennent, certaines que vous avez vues, peut-être qu'elles viennent de Montereau, qu'elles ont été conçues et assemblées à Montereau par Soletanche-Bachy dans notre zone industrielle. Évidemment, ça crée de l'emploi. Je crois surtout que ça crée de l'espoir en termes de développement, d'attractivité, de rayonnement de notre territoire. Moi, je voudrais juste porter le message qu'on ne peut pas raisonner un territoire infra à la région Île-de-France, que le Grand Paris, c'est l'Île-de-France, et que le Grand Paris n'existe pas dans son périmètre de la métropole du Grand Paris, que le Grand Paris ne peut exister que dans le périmètre à minima de l'ensemble de la région Île-de-France. Et je rajoute même le à minima, parce que si on voulait vraiment porter une vision futuriste et complète de ce que on devrait porter pour le Grand Paris, on devrait y inclure Rouen et Le Havre, parce qu'une région monde, une région capitale monde, comme on porte cette ambition pour le Grand Paris, doit avoir un grand port, et ce grand port, c'est Paris,
non mais
Rouen,
qu'il y ait, alors attendez.
C'est cette vision-là
là,
dont nous avons besoin pour
vous.
Le Grand
Quand
Paris.
Quand il y a une coopération avec d'autres régions comme la Normandie, là on l'entend. Mais allez donc demander aux Normands s'ils ont envie de ça. Et je peux vous dire qu'ils vont vous dire on n'en veut pas, les Parisiens, chez eux. Voilà ce qu'ils vont vous répondre, les Normands. Le président de la région Normandie est le premier à dire ça, d'ailleurs.
L'idée n'est
un
pas
centriste comme vous.
L'idée n'est pas de demander à tous les Parisiens de déménager en Normandie. L'idée est simplement, lorsque l'on essaie de...
Non, mais la Normandie veut exister en tant que telle, c'est tout. Elle ne veut pas d'une grande région.
Je ne vous parle pas d'institution, vous avez un raisonnement institutionnel. Je vous parle de vision de développement. Depuis combien d'années, depuis combien de décennies, on ne porte plus de vision d'aménagement du territoire ?
Ça, c'est vrai.
C'est cela qu'il faut remettre, sur la table. Ça, je ne vous dis pas que la région Île-de-France doit aller manger telle ou telle région à côté. Il faut travailler ensemble pour que, à l'échelle du pays, on travaille une vision du Grand Paris, une région métropole, capitale, mondiale, qui embrasse plus largement que ce qu'est la métropole du Grand Paris au sens institutionnel. Aujourd'hui, c'est toute la région Île-de-France et c'est même l'axe Seine qui nous permet d'accéder au port de Rouen et du Havre. C'est à ce prix-là qu'on aura vraiment une région monde qui pourra concurrencer les grandes capitales à travers le monde, notamment en Asie et aux États-Unis.
Dites-moi, dans l'état actuel des choses, moi quand même, je me dis la chose suivante. Je suis chef d'entreprise ou je suis par exemple commerçant, je veux m'installer quelque part, je veux me développer, etc. Très honnêtement, je vous le dis, je préfère aller m'installer par exemple à Clamart, qui va avoir sa nouvelle gare du Grand Paris, avec tout ce que ça signifie en termes de développement économique et social, plutôt que chez vous. Parce que vous êtes éloigné de tout.
Eh bien, vous avez tort, parce que Clamart vit déjà son développement depuis un certain nombre de décennies, alors que Montereau est une terre d'avenir. Parce que, si l'on a un peu de vision, Paris ne peut pas se construire et se reconstruire indéfiniment sur lui-même, et Paris a besoin de pouvoir penser plus large. Quand je parle de Paris, c'est du Grand Paris. Et depuis une dizaine d'années, Montereau a pris 4000 habitants. Et la Seine-et-Marne gagne 12000 habitants chaque année. Une ville comme Nemours, pousse chaque année en Seine-et-Marne. Donc c'est une terre d'avenir. Et si j'étais commerçant, et nous avons le président de l'Union des commerçants de Montereau qui est ici, c'est à Montereau que je viendrai investir parce que c'est encore abordable et parce que c'est un marché d'avenir dans un territoire en pleine expansion et extrêmement dynamique.
Alors, monsieur le président des commerçants, il faut s'installer à Montereau ?
Oui, il faut venir. Parce que je vais vous donner un exemple. Tout bêtement, on a un magasin bio qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. C'était très compliqué de l'ouvrir, ce magasin. Moi, j'avais fait un petit sondage dans mon magasin. Tout le monde me disait « Oh, le bio, tu verras, personne ne viendra. C'est une petite niche et tout. » Moi, je suis allé le voir. Je suis client maintenant. J'achète. Alors, je ne suis pas particulièrement un fan du bio, mais il a énormément de produits. Il s'en occupe et en fin de compte, il a une belle clientèle et ça tourne. Et ça va tourner et on va lui souhaiter longue route. Mais la preuve que le petit commerce comme ça, mis de côté, si on fait du service et qu'on apporte le produit que les clients veulent, il y a de la demande.
Alors, moi, j'ai quand même.
Et comme je ne veux pas, cher Christophe, comme je ne veux pas me fâcher avec mon ami Jean-Didier Berger, je pense que le commerçant doit être ambitieux et se développer à la fois à Clamart, mais aussi parce qu'il est visionnaire à Montereau.
Il vous entendra, j'en suis absolument certain, Jean-Didier Berger, le maire de Clamart, effectivement. Dominique, moi, je voulais vous poser quand même une question, parce que quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit des choses, il faut se dire les choses. Vous m'avez dit, oui, bon, il y a, je ne sais plus, une centaine de commerces, ou un petit peu plus. 300 commerces à Montereau. Il y en a une partie qui, honnêtement, ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui pensent qu'ils vont s'installer, que ça va tourner tout seul, etc. Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, ils ferment. Enfin bon, voilà, il y a un turnover visiblement qui est un peu embêtant. Et vous me disiez aussi, bon, le centre-ville, il y a quand même un risque que ça meure, quoi. Donc quel est votre sentiment profond par rapport à tout ça ?
Alors, sur la première question, les commerces qui ne servent à rien, donc je ne vous ai pas dit ça.
C'est ce que ça voulait dire.
On est sur une nouvelle génération de personnes qui pensent qu'ouvrir un commerce, ça se fait comme ça, on ouvre le rideau le matin, on attend le client, on n'a pas besoin de trésorerie, on ne gère pas ses stocks, on ne sait pas quand est-ce qu'un produit A rentre et quand est-ce qu'il sort en caisse, on ne gère pas ses stocks, le commerce a l'air facile, eux ne vont pas loin. Ça doit se produire dans toutes les villes, je pense. On a ce problème, on a énormément de coiffeurs.
C'est bien ça, les coiffeurs.
Oui, mais... il faut des bons coiffeurs et des vrais coiffeurs.
Ah, bon, on y revient. Voilà.
Et voilà. Pas avoir des vrais métiers. Ouais. Et ça, je pense que c'est un phénomène dans toutes les villes.
Ouais.
Ça se passera. Je suis aussi vice-président des prêts d'honneur et on voit des demandes un peu folles avec des gens qui pensent qu'ils vont gagner 3 000 euros par mois en prenant 3 mois de vacances la première année. Mais ça va être dans toute la France. Après, on a un centre-ville à redynamiser et il nous faut des commerces de services. Je vous ai donné l'exemple bio tout à l'heure, mais on a une boucherie qui a été aidée par les prêts d'honneur il y a une année ou deux et qui fait un tabac parce que c'est des commerçants, c'est des vrais commerçants dans l'âme.
Avec des vrais bons produits de qualité.
Avec des vrais produits, ils ont collé
les horaires. Et locaux peut-être d'ailleurs.
Pardon ?
Peut-être des produits locaux, d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas si c'est des produits locaux, mais du coup, ils ont les produits dont la clientèle est en attente. Et ça, c'est très important. Moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de services. Je sais que je ne peux pas tout faire. Je sais que je ne vais pas les concurrencer une grande surface. Mais par contre, je fais énormément de services. Les gens veulent ça maintenant.
Oui, c'est
Du coup, j'entends ce que vous dites sur vos coiffeurs, mais alors ce ne sont pas des vrais coiffeurs qui se sont installés, c'est...
Ah, je ne me permettrai pas de le dire, mais...
Mais c'est dit, c'est pas grave, parce que 27... on lit entre les lignes dans cette émission.
Il y en a 27, c'est ça, hein.
Il y en a beaucoup de coiffeurs. Hein.
D'accord.
Oui, d'accord. Bon. Dites-moi, comment vous vivez ? Parce que vous êtes photographe, on viendra chez vous, d'ailleurs, Dominique, on viendra chez vous pour se faire photographier, bien sûr, mais comment vous vivez le confinement, Dominique ?
Alors... Je vais vous faire une image. On a pris une première claque les trois premiers mois. Tout le monde a pris ça un petit peu comme des vacances. Le commerçant de base qui avait de la trésorerie les a un peu mangés. On s'est remis nos émotions au troisième mois. Nous voilà repartis en mois de novembre. La deuxième claque arrive. Un peu sonnée. On se remet. Bon, là, on a un coup sur la tête. Hein. Franchement, les commerçants qui n'ont pas de trésorerie et qui démarrent, ça va être très, très compliqué pour repartir.
Ouais. Et les aides continuent à arriver quand même ou pas, Dominique ?
Alors, les aides continuent à arriver. C'est vrai qu'il faut les demander. C'est la difficulté. J'en ai parlé avec notre ami maire. La difficulté, c'est que le commerçant est enterré dans sa tonne de paperasse. Et pour lui, c'est une somme de papier à remplir en plus.
James Chéron, vous avez mis en place des aides liées à la Covid, justement, pour les commerçants ?
Oui, tout à fait. Je pense que chacun est attaché à avoir un cœur de ville vivant. Et à peu près toutes les petites et moyennes villes de France souffrent d'avoir des cœurs de ville qui ont été très largement malmenés. Tout d'abord, les grands centres commerciaux en périphérie des agglomérations. Et puis plus récemment, le commerce sur Internet. Et quand on est un petit commerçant de proximité en centre-ville, c'est extrêmement compliqué de naviguer dans cet espace concurrentiel, et particulièrement en période de Covid, parce qu'il est toujours possible de commander sur Internet, parce qu'il est toujours possible, avec des conditions un peu particulières, d'aller dans les grandes surfaces et dans les centres commerciaux, et que souvent, il est beaucoup plus compliqué d'aller chez son commerçant de proximité, qui est empêché, partiellement ou totalement. Alors évidemment, nous avons... tous mis en place des aides. Il y a les aides de l'État, il y a les aides des chambres de commerce, des chambres des métiers. Le conseil régional a beaucoup aidé. Et puis les communes, et à Montereau, nous l'avons fait pour essayer d'apporter de la trésorerie aux commerçants via divers dispositifs lors du premier confinement, lors du deuxième confinement, souvent avec des chèques cadeaux, des bons d'achat dont ils pouvaient percevoir tout de suite la rémunération, et avec des achats qui pouvaient être décalés dans le temps, de sorte à créer de la trésorerie tout de suite. C'était la demande des commerçants. Nous les avons aussi accompagnés à prendre de la visibilité sur Internet. C'est compliqué, lorsqu'on est un petit commerçant de proximité, de s'engager dans la démarche de créer un site Internet, d'avoir son catalogue. Et puis on est invisible face aux géants du commerce en ligne. Alors nous avons mis en place une place de marché virtuelle qui est... en accessibilité gratuite pour l'ensemble des commerçants de la ville.
Une sorte d'Amazon locale.
Une sorte d'Amazon locale qui permet aux commerçants au moins de plaquer leur vitrine et puis, s'ils le souhaitent, de voir avec leur propre opérateur bancaire pour pouvoir générer des commandes en ligne, des règlements en ligne, des livraisons s'ils le souhaitent, et tout cela étant sur une interface qui est payée par la collectivité avec un soutien de l'État et de la région. Qui est mise à disposition gratuitement des commerçants. Et là, nous sommes en train de regarder pour travailler sur une conciergerie locale, de sorte qu'à distance, dans son train, on puisse commander et être livré, avoir sa commande qui soit préparée quand on sort du train ou livrée à la maison si on le souhaite. Enfin, voilà, on essaye d'innover pour accompagner nos commerçants locaux. C'est un petit-fils de commerçant qui vous parle. Les métiers évoluent. Mmh. Être commerçant, c'est un vrai métier. On n'est pas commerçant en 2021 comme on était commerçant en 1950. Et effectivement, il faut accompagner les professionnels ou les jeunes à devenir des professionnels dans un marché qui aujourd'hui est particulièrement concurrentiel. Et je vais vous dire, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les gens se mobilisent. Nous n'avions plus vraiment d'associations de commerçants vivantes et vivaces à Montereau. Mmh. Et puis c'est justement pour porter ces projets avec nous, notamment la place de marché virtuelle, que des commerçants, Dominique Bruno, qui a accepté de devenir président de cette nouvelle association, se sont retroussés les manches. Et puis ils se sont dit, on y va, banco, parce que c'est pour notre affaire, et puis c'est pour notre cœur de ville.
Le temps passe très vite, malheureusement. Une toute petite dernière question-réponse. Vous le disiez tout à l'heure, 4000 habitants en plus, c'est ça, hein, ces derniers temps dans votre commune. On a parlé des transports, on a parlé du commerce, on sent votre envie de batailler, d'y arriver, de gagner. Et c'est ça qu'on aime chez les maires, en fait, hein, chez ces élus.
On fait tout pour. Enfin, qu'on aime tous les jours, on travaille sur l'attractivité de notre territoire. C'est en matière d'éducation, c'est en matière de culture. On est en train de construire. La culture, aujourd'hui, est fermée, verrouillée.
Et vous construisez un théâtre.
Et on est en train de construire un grand théâtre, ça va s'appeler le Majestic, on ouvre dans un an, premier trimestre 2022, on accueillera toute forme de spectacle, de la musique, du théâtre, des concerts, des one-man shows, entre 700 et 1300 places en fonction effectivement des spectacles. Voilà, il y a plein de bonnes nouvelles dans nos territoires, parce qu'évidemment on ne perd pas du temps, on gère la crise, et c'est compliqué, parce que les vaccins n'arrivent pas malgré les promesses, parce que les tests c'est compliqué, parce qu'on est obligé de fermer les commerces, de fermer les écoles, et en même temps, en parallèle de la gestion de cette crise, eh bien on continue à travailler sur l'attractivité de nos territoires. C'est ça la magie et c'est ça la tout l'intérêt et l'énergie qu'on peut mettre lorsqu'on est des élus locaux.
Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train.
Bon, elle est un peu facile, c'est Richard Anthony. C'est sûr que vous n'entendez pas siffler le train du Grand Paris, hein, puisque c'est le Transilien, on l'a dit. Mais je crois que certains, s'ils nous écoutent, vont avoir les oreilles qui sifflent hein, quand même. Parce que quand vous avez dit que vous étiez les Indiens éloignés de Paris, en tout cas vus comme ça, je pense que certains vont l'entendre à un moment. Hein. Voilà, on va se quitter là-dessus.
Bah, je voudrais qu'on se quitte sur une note positive. Oui. J'ai envie de dire à tous ceux qui n'en peuvent plus d'être dans des petites surfaces, d'être confinés à l'intérieur de Paris, de la grande amélioration, de réfléchir à des nouveaux projets de vie, et puis aux autorités qui sont compétentes pour le faire, de travailler à des nouvelles stratégies globales d'aménagement du territoire. On a des dizaines, des centaines, des millions d'habitants qui sont concentrés dans des hyper-agglomérations avec des conditions de vie qui ne les satisfont pas, alors que leurs activités économiques pourraient être disséminées partout dans le territoire français. Nous avons la chance d'avoir un pays extraordinaire. Utiliser tous les territoires, utiliser les énergies des acteurs économiques et politiques dans les territoires. Et puis, puisque moi, je suis en Seine-et-Marnais à Montereau, j'ai envie de dire, si vous voulez prendre l'air, si vous voulez vivre dans un territoire dynamique, accueillant, ben venez en Seine-et-Marne et venez à Montereau.
Eh bien, voilà, le message est passé. Merci beaucoup, James, en tout cas, d'être venu nous voir.
Merci, Christophe.
James Chéron, qui est maire de Montereau, et Dominique Bruneau, qui était à distance, que l'on salue. Et merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, hein, Dominique, bien évidemment. Merci à Bérénice également, qui m'a accompagné pour cette émission.
Merci, Christophe.
Merci beaucoup. À la réalisation, Pierre-Yves Falson, que l'on remercie également. Émission à retrouver sur nos réseaux sociaux. Radio Territoria, à très vite.
L'Express du Grand Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.